Comme le temps file à grande vitesse, je me propose d'évoquer tout de suite un petit peu la position de la maison départementale des personnes handicapées et voir quand est-ce qu'il y a saisine effective de la MDPH et une demande de reconnaissance de compensation au titre du handicap. Donc on va essayer de clarifier un petit peu ces choses qui peuvent paraître des fois un peu confuses aux différents acteurs. C'est lorsque les moyens de compensation mis en place par l'éducation nationale dans le cadre du PPRE, du PAI ou du PASS, ces moyens de compensation demeurent insuffisants, que à ce moment-là, on va envisager de saisir la maison départementale des personnes handicapées au titre d'une reconnaissance de handicap. On n'a pas besoin qu'effectivement le diagnostic soit complètement posé. Dès lors qu'il y a des troubles relativement sévères qui ont été repérés, dès lors qu'il va y avoir besoin d'avoir des compensations supplémentaires, à ce moment-là, effectivement, il y a tout intérêt à saisir la MDPH. Donc, on a passé tous ces stades de repérage, de surveillance, de signes évocateurs. On peut avoir les signes évocateurs qui sont présents, le diagnostic ou pas complètement posé, pour saisir cette MDPH. Il y a un préalable, il faut que les troubles soient existants. Il faut aussi qu'il y ait déjà une mise en œuvre des séances de rééducation qui soient appropriées aux besoins spécifiques de l'enfant. Et il y a deux conditions, c'est qu'effectivement il y ait un retentissement sévère qui va entraver les activités scolaires, mais aussi celle de participation à la vie sociale de l'enfant, parce que là, ça aussi, c'est excessivement important. Et on va aller vérifier que tous les dispositifs de droit commun sont bien mis en place, et c'est lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants qu'on va actionner ceux qui sont propres au handicap. Et puis aussi, on va tenir compte des surcoûts qui peuvent être engendrés pour les familles, pour essayer d'apporter des réponses pécuniaires. Donc nous, au sein de la MDPH, on va apprécier les besoins de l'enfant, on va élaborer des réponses de compensation et on va statuer sur un terme barbare qui est le taux d'incapacité qui va permettre d'ouvrir un certain nombre de droits. Ce que je veux dire aux parents, c'est que quand vous nous saisissez pour une reconnaissance de situation de handicap, c'est pour une situation. Elle peut exister à un moment donné, et puis à un moment, elle peut aussi disparaître. On va vous ouvrir des droits que vous, parents, vous pouvez mobiliser si vous le souhaitez. Vous pouvez en informer vos partenaires si vous le souhaitez. À chaque fois, on est très respectueux de la décision de la famille. Ces droits sont potentiels, c'est à la famille de voir si elle informe les partenaires de la prise en charge de l'enfant ou pas. Moi, ce que je dis toujours, on travaille dans une intelligence collective et je pense que ça dédramatise des choses qu'à un moment de pouvoir mettre les mêmes mots sur les troubles de l'enfant et de cheminer ensemble. Voilà, et c'est tout l'intérêt du réseau. Donc l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH va prendre en compte toutes les observations qui vont nous revenir à partir de différents documents Pour tout ce qui est scolaire, il y a un guide d'évaluation multidimensionnelle qui s'appelle le GEVASCO, qui est rempli en concert par les équipes éducatives et par l'équipe pédagogique. Et donc, est un outil aujourd'hui qui est très bien approprié sur l'ensemble de l'académie. Et donc, les parents, bien entendu, copient de cet outil et peuvent aider aussi à le compléter. Et puis, on va essayer d'imaginer tous les aménagements dont l'enfant a besoin, ainsi que toutes les mesures qui vont être nécessaires. Pour une saisine de la MDPH, on a besoin d'éléments qui sont bien entendu notre formulaire de demande, un certificat médical. Et puis, dans ce certificat médical, il est important, lorsque ça vient du médecin traitant, que les éléments qui ont permis d'étayer le diagnostic ou au moins d'évoquer des troubles soient mis pour éviter les autres diagnostics qui seraient différentiels. On a besoin, mais ça, Madame Pénélo l'a dit, et les autres personnes du réseau aussi, d'avoir des notions sur les acquisitions psychomotrices en adéquation avec l'âge de l'enfant, ainsi que tout le projet de rééducation et thérapeutique qui est déjà engagé. On va avoir besoin du compte-rendu de l'examen du psychologue, un compte-rendu de moins de 18 mois, si possible. Et on va aussi avoir besoin du bilan de l'orthophonique, avec différentes précisions. Et puis, pour les dyspraxies visio-spatiales, le bilan orthoptique, je passe très vite parce qu'on l'a déjà dit. Alors, nous, on intervient vraiment lorsque les aménagements mis en place par l'école ne sont vraiment pas suffisants, et on va venir préciser de façon beaucoup plus détaillée quels peuvent être les aménagements pédagogiques qui peuvent être évoqués. Alors, on a le cas particulier des stagiaires en CFA, où l'aménagement va aussi être possible, mais il va se faire en interne de l'organisme de formation. Mais je tenais vraiment à vous donner cette information, parce que très souvent, on n'y pense pas. Or, on a un certain nombre d'élèves qui, à partir de 16 ans, sont orientés vers des dispositifs pré-professionnels, et ils vont pouvoir continuer, ou à l'université, à avoir besoin de ces aménagements. Dans les aménagements, on va pouvoir avoir tous ces aménagements qui vont pouvoir être mis dans le projet personnalisé de scolarité, et donc qui vont s'appliquer pour une mise en place effective. Donc ça, c'est un petit peu le listing de tous ces aménagements possibles. On a des aménagements aussi pour les dyspraxies qui existent, qu'on va aussi pouvoir notifier. Et donc, ces aménagements vont faire l'objet d'une mention sur le projet personnalisé de scolarisation, mais vont faire aussi l'objet d'une notification de décision qui va aller directement au niveau de la direction des services académiques pour application. Sur les outils, les autres outils de compensation, donc on a bien évidemment le plan personnalisé de scolarisation qui s'intègre dans le plan personnalisé de compensation qui est beaucoup plus large que celui de la scolarisation. Sur les aides techniques, on a une large gamme d'aides techniques possibles. C'est ce qu'on appelle plus communément le matériel pédagogique adapté. Et donc, on va essayer de faire en sorte de vérifier que l'élève va réellement avoir besoin de ce matériel pédagogique. Et très souvent, on demande à l'ergothérapeute, à l'orthophoniste, de nous préciser le type de matériel dont l'enfant a réellement besoin, et de s'assurer que ce matériel pourra effectivement être utilisé par l'enfant, mais que aussi il va être accompagné pour l'apprentissage de l'utilisation de ce matériel. Parce que trop souvent, on a vu que le matériel, il avait été prescrit, il avait été donné, mais qu'il était rangé dans une armoire. Et donc, on demande aux orthophonistes, on demande aux ergothérapeutes d'aider dans l'acquisition de ce matériel. On est prêt aussi à financer des formations en direction des familles, parce qu'il ne faut pas négliger le rôle des familles sur l'utilisation aussi de ces matériels pédagogiques adaptés. Ça fait partie de l'accompagnement cohérent de la prise en charge de l'enfant. Donc, c'est important de prévoir en amont un appui à l'utilisation de ce matériel et en aval aussi une évaluation de que ce matériel est bien approprié à l'enfant, qu'il est bien utilisé. Et puis, il peut aussi varier en fonction du temps, en fonction du parcours scolaire de l'enfant et en fonction de son niveau de compétence. Alors, on a aussi des aides humaines qui sont... Alors, il y a aussi des aménagements du poste de travail en milieu professionnel, puisque aujourd'hui, on a un certain nombre de stages qui peuvent se faire durant le temps de scolarité ou le temps universitaire. Et il faut savoir que ces aménagements sont tout à fait possibles et sont tout à fait financés par deux opérateurs qui sont le FIP et la GFIP. Donc, et ça, ce n'est pas une charge qui reste à la charge des familles. Donc, il faut que la MDPH soit saisie. On fait une notification qui va bien évidemment s'imposer à ces opérateurs. Il y a aussi donc tout ce qui est l'aide humaine. Et je tiens à rappeler que l'AVS, c'est pas, ça ne va pas de soi. Et que c'est pas forcément la première demande qu'il convient de faire. L'AVS ne peut être donnée que dans des cas très spécifiques. Et on essaie à chaque fois de privilégier l'autonomie de l'élève et l'utilisation par des moyens approprié qu'il va pouvoir utiliser tout au long de la vie et dans les différents environnements. On a aussi des aides financières qui sont soumises à une reconnaissance de handicap et à un taux d'incapacité d'au moins 50%. Et ça, c'est pour les niveaux de sévérité les plus importants. Afin de permettre de vous retrouver là-dessus, on avait déjà fait avec Madame Peignello en 2007 tout un travail d'identification. Et ce travail a été repris par la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie. Et on est arrivé à cette identification-là qui nous dit que pour les enfants qui présentent des troubles importants de l'acquisition du langage oral et écrit, qui perdent notamment les apprentissages et qui ont des ralentissements sur la socialisation, alors on peut accorder un taux d'incapacité de 50%. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir ouvrir des financements par le biais de l'allocation de l'élève handicapé qui s'appelle l'AEH et des compléments spécifiques. Donc là, je le laisserai sur le power. Il y a une distinction entre le taux de 50% et le taux de 80%. Parce que des fois, on a des parents qui nous demandent de suite le taux de 80%. On le donne vraiment de façon très exceptionnelle et vraiment pour des handicaps très complexe, avec des troubles associés. On va, pour les troubles relativement déjà sévères, être sur une fourchette de 50-79%. Donc, on va prendre en compte, en fonction de deux combinaisons sur les compléments de l'AEH, soit des frais, à concurrence d'un montant spécifique, ou alors aussi le temps parental pris pour accompagner l'enfant lorsqu'il y a de nombreuses rééducations, que les parents sont obligés de réduire leur temps d'activité, soit à 20%, soit à 50%, et donc pour compenser financièrement ce temps parental apporté à l'éducation de l'enfant. Et donc, là, je vous ai fait un tableau un peu synoptique des différents compléments de l'allocation d'éducation qui peuvent être donc mis en œuvre quand il y a des frais spécifiques, et notamment pour financer de l'ergothérapie, pour financer un soutien psychologique, pas d'orthophonie, puisque c'est pris en charge par l'assurance maladie. Et très bonne nouvelle, on vient d'avoir un arrêté qui précise que désormais, les frais de transport pour aller vers les CAMS et les CMPP sont pris en charge intégralement par l'assurance maladie. Donc là, c'est tout dernièrement, la semaine dernière, un levier qui pouvait faire obstruction à la rééducation des enfants qui vient d'être levé. Donc ça, c'est autant de bonnes nouvelles qu'il faut avoir en tête. Alors, il y a la prestation de compensation. Globalement, on a très peu de personnes qui rentrent dans cette prestation. C'est vraiment pour des déficiences sévères et des troubles associés. Voilà. Donc, je vous ai fait une présentation très rapide et sommaire des prestations que vous pourriez avoir au niveau de la MDPH.